بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بارك مبارك يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم فقهنا وعلمنا وزدنا علما. شهاب الحمد لله، الله سبحانه عز وجل الجيد الحديث القدسي كان تنبوجي الحديث قدسي لمو قدسي فجير ان فرنسي ما تجي لمو قدسي ان فرنسي كما وجيت قدسي ان فرنسي قدسي ديفان الحديث قدسي Le hadith divin, ça veut dire que les paroles ils viennent du prophète alayhi salam, lakin le ma'na, l'interprétation provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La différence qu'il y a entre le hadith qudusi et le Coran, c'est que le Coran c'est les paroles d'Allah et l'interprétation, la signification c'est d'Allah. Le hadith qudusi c'est les paroles du prophète qui nous transmet de la part d'Allah. Vous avez compris la différence? Ouais. Le hadith qudusi, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu azza wa jalla dit wajabat mahabbati. On se fait de temps en temps des rappels comme ça pour que vous sachiez l'importance quand on s'aime entre nous. Wajabat mahabbati. Allah subhanahu azza wa jalla dit c'est une obligation pour moi d'aimer. Aimer qui? Allah subhanahu azza wa jalla, comme vous savez, Allah il crée toutes choses. Et Allah ta'ala, tout lui appartient. الله يخلق ما يشاء وفي مخلوقاته الله يختار الله يكري toute chose et parmi ces créatures الله يشوزي. Je vais vous donner des exemples. الله سبحانه عز وجل il nous a créé à nous les êtres humains et dans les êtres humains الله سبحانه عز وجل il a choisi les croyants et dans les croyants Allah subhanahu azza wa jal, il a choisi les prophètes. Et dans les prophètes, Allah il a choisi les messagers. Ce sont 313 rusul. Et dans les 313, Allah subhanahu azza wa jal, il a choisi les 5 là. Noé, Ibrahim, Moïse, Jésus et Mohammed. Et dans les 5 là, Allah subhanahu azza wa jal, il a choisi Mohammed alayhi salatu wa salam. Regardez, c'est tous des créatures d'Allah. Lakin Allah il crée et choisit. Comme toi, ton épouse ou ta mère, elle te fait des plats. Elle te fait des pâtes, elle te fait du couscous, elle te fait. Et dans ces plats-là, tu as un choix, toi. Tu aimes un plat plus que l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les animaux. Et dans les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup le coq. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 12 mois dans l'année. Et dans les 12 mois dans l'année, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan. Allah, il aime toutes les nuits. Mais il préfère la nuit du destin. Allah il préfère les jours de la semaine, les 7. Mais dans les jours de la semaine, Allah subhanahu wa ta'ala préfère le vendredi. Allah il aime toutes les mosquées que vous voyez dans le monde entier. Mais dans toutes les mosquées du monde entier, il en préfère 3. La mosquée du Quds, la mosquée du prophète et la mosquée de la Mecque. Et dans ces 3-là, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, il crée et il choisit. Allah subhanahu wa ta'ala ici il a dit j'aime. Mais il n'a pas dit j'aime. Il a dit c'est je m'oblige à aimer. Wajabat mahabbati. C'est l'obligation pour moi d'aimer qui? Wajabat mahabbati lil mutahabbin fi. Ceux qui s'aiment pour moi, je les aime. Et nous, Allah, ya ikhwan, on est venu ici à la mosquée pourquoi? On se doit quelque chose? On se doit rien. La plupart de nous ici, frères et sœurs, on est venus pour Allah. Allah subhanahu azza wa jal, yawm al-qiyama, comme il est venu dans un autre hadith, yawm al-qiyama, Allah subhanahu azza wa jal, il va nous faire une très grande faveur. Allah subhanahu azza wa jal, pendant que des gens ils vont souffrir sous la chaleur du soleil, transpiration, sueur, soif, faim, il y a une partie des gens, Allah ta'ala va les mettre sous l'ombre. C'est des invités spéciaux d'Allah ça. Il va les mettre sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu azza wa jal. Parmi ces gens-là, ceux-là. Ceux qu'Allah Ta'ala il a aimé, ceux qui s'aimaient dans ce bas monde. Et quand ils aiment Allah dans le monde, الله سبحانه عز وجل يجعلهم يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Mes chers frères, on va rentrer dans le quatrième épisode de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est très important cet épisode, parce que le cinquième épisode, on va rentrer dans la révélation. Mab'ath Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc aujourd'hui, c'est très important. Nous avions dit le cours passé que Abdallah, le père du prophète alayhi salatu wassalam, il est mort à la Médine. En partant faire le commerce, en retournant, sa femme, elle était enceinte. Et cette femme, je pense que si elle s'appelle, si vous vous rappelez bien, elle s'appelait Amina bint Wahbin. C'est ça? Si je me trompe, rectifiez-moi. Elle était enceinte. Quand il est revenu du commerce, Abdullah, il est mort à la Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retrouve orphelin. Le prophète alayhi salatu wassalam, son père, il meurt. Mohammed, il est encore dans le ventre de sa mère. Ensuite, vous savez, je vous ai raconté l'histoire, comment il est né, qu'est-ce qui s'est passé comme miracle quand il est né, etc., etc. Où est-ce qu'il est parti boire le lait? À l'âge de 4 ans, à l'âge de 6 ans, sa mère, elle meurt aussi à la Médine, entre le chemin, entre la Médine et la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se retrouve orphelin. D'accord? Ensuite, il le prend en main son grand-père, Abdul Muttalib. Ce grand-père-là, dont il avait 10 enfants, garçons et 6 filles. 10 garçons et 6 filles. Il le prend en main 2 ans, Ahmed, de 6 à 8. Et voilà que le grand-père aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'il meure. Le prophète, il lui reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, il est devenu orphelin. Il est pauvre. Regardez, Allah Ta'ala, il lui a fait perdre tous les gens qu'il aimait. Le père, la mère, le grand-père, vous allez voir après l'oncle, ils meurent tous un par un. Même ses propres enfants qu'on va étudier après, il a eu des enfants, ils meurent, les garçons je parle, ils meurent, il ne reste que les filles. Regardez les épreuves qu'il a eues, Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça c'est règle dans la famille, hein. Je ne vous parle pas ce qu'il a affronté avec les gens. Rien que dans la famille, regardez mesquines les épreuves qu'il a eues. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'orphelin? Rasul kana yatim. Le prophète, il était orphelin. Et Allah Ta'ala, il nous met en garde dans le Coran, attention, prenez soin des orphelins. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, yusina fil ahadith ana nwasikum bil yatama. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa amma al yatima fala taqhar. Al yatim, attention, tu le sous-estimes. Mesquine, parce qu'il n'a pas de père, tu le rejettes. Attention, Allah Ta'ala te dit. Wa amma al-yatim fala taqharhu. Ne le rejette pas. Tu le sous-estimes. Allah subhanahu azza wa jalla dit dans le Coran, ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Tu as vu, cher prophète, celui qui ment sur la religion. Yukadhib, il ment sur le jour de la résurrection, il ne veut pas y croire. فذلك الذي يدعو اليتيم, celui qui laisse tomber l'orphelin, celui qui s'écarte de l'orphelin. فالله سبحانه عز وجل met en garde contre celui qui s'oppose à l'orphelin. Et regardez ce qui dit le prophète عليه الصلاة والسلام dans le hadith, celui qui prend soin de l'orphelin et celui qui prend pas soin de l'orphelin. Qu'est-ce qu'il dit le prophète, celui qui prend soin de l'orphelin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Ana, le prophète il dit, moi, Ana, wa kafilu liyatim fil jannah hakadha. Le prophète il a dit, moi, et celui qui prend soin et se porte garant de l'orphelin, il est avec moi dans le paradis comme ça. Et le prophète il a mis ses deux doigts, l'index et le majeur comme ça, collés ensemble, c'est-à-dire tu seras collé au prophète dans le paradis. Ana, وكافل اليتيم في الجنة وأشار النبي لأصبعيه السبابة والرسلة هكذا. Attention mon frère à l'orphelin, attention, il n'a pas de père mais il a son seigneur. Attention, Allah subhanahu wa ta'ala, il visionne tout, il sait tout. Enfin, ça c'est la première wasiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième hadith, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, si tu ne prends pas soin des orphelins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ajtanibu sab'al mubiqat. Vous savez, il y a des petits péchés, il y a des grands, il y a des grands-pères. Les grands-pères, hadou, c'est ceux qui te mènent à la perte. Le prophète, il les a appelés al-mubiqat. Mubiqat, c'est al-muhlikat. Ceux qui t'amènent de suite à la perte, elles sont graves, c'est des grosses. Hein? Parmi les sept, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Wa'ak mal al-yatim. Manger l'argent de l'orphelin fait partie des sept péchés capitaux. Hein, Mahama? Sept péchés capitaux. Attention, tu lui manges son argent al-yatim. Surtout les gens qui gardent l'argent du fils à son frère, voilà, le fils, peu importe dans la famille, vous avez deux orphelins, tu dis un âge, lui garde son argent, et après tu fais comme tu veux toi. Attention. Tu as un compte à donner à Allah, ta'ala et l'Ukhiyam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith al-sahih, rawahu tabarani, wa rawahu al-mundiri fi targhib wa tarhib, wa huwa hadith sahih, sahaha au Sheikh Nasser, rahimahullah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith, il est venu un homme, il a dit, ya Rasulallah, et ça on l'a tous. Frères et sœurs, tous. Il est venu un homme, chacun il est le Nabi. Il s'est plaint au prophète, il a dit, ya Rasulallah, jitu ashku laka qaswatun fil qalb. Je suis venu me plaindre à toi, cher prophète, toi le docteur, le plus grand chirurgien, le plus grand médecin, toi la lumière. Je suis venu te dire que j'ai une dureté dans le cœur, mon cœur est devenu dur. J'entends l'enfer, ça ne me dit plus rien, j'entends le paradis, ça ne me fait plus rien, j'entends la mort, ça ne me fait plus rien, je m'en fous. Moi, parle-moi de l'euro, parle-moi de dunia, parle-moi de voiture, parle-moi de business, parle de din, moi je suis plus touché, moi je m'en fous. Qaswatun fil qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, essuie la tête de l'orphelin. Qu'est-ce que ça a à voir ça avec ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, essuie la tête de l'orphelin. Quand tu passes sur un orphelin, essuie la tête. On a dit l'orphelin, c'est celui dont son père il est mort. Celui le contraire, dont la mère elle est morte, c'est pas un orphelin dans l'islam. Ça t'empêche pas de lui faire du bien, je sais. Mais le vrai orphelin dans l'islam, c'est celui qui n'a pas de père jusqu'à la puberté. Quand il est en âge de la puberté, c'est plus un orphelin. Attention, parce qu'en âge de la puberté à 14 ans, 15 ans, maintenant il est indépendant, il peut faire ce qu'il veut, il peut travailler, il peut. Qadr al-ashqa. Mais quand il est petit, il peut pas, parce qu'il est compté sur son père. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle yatim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu ce compagnon, il lui a dit, je me plains à toi, cher prophète, mais qaswatun fil qalb, d'une dureté dans le cœur. Le prophète lui a dit, essuie la tête de l'orphelin et donne-lui, at'imhu min ta'amik. Essuie la tête de l'orphelin et nourris-le un petit peu de ta nourriture et Allah, il va te donner trois choses. Un, il va t'enlever la dureté du cœur. Deux, yughfar dhanbuk. Tes péchés sont pardonnés. Et Allah Ta'ala t'exauce tes projets. Regardez. Essuyez la tête de l'orphelin. Fille ou garçon. Fille, tu ne lui suis pas, Inch'Allah. C'est notre soeur qui lui suit. Hein? Oui. Tu veux ouvrir? Essuyer la tête de l'orphelin, ça t'enlève trois choses. Ça t'amène trois choses. Ça t'enlève la dureté du cœur. Sou'oubat al-qalb, hadha al-qalb al-shadid. Fa madha qala Rasoul fi hadith akhra, fi riwaya akhra, yalinu qalbak. Ça s'enlève cette dureté. Ton cœur, il devient layyin. Agite ce cœur. C'est un jour, on va faire un discours sur le cœur, Inch'Allah. Les qualités qu'il a le cœur et les défauts. Regardez, ce cœur, il se renverse. Comme il a dit Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatuhum. On renverse leur cœur. Allah il le dit dans le Coran. Ce cœur il se renverse. Ce cœur il devient doux. Ce cœur il devient dur. Ce cœur il devient lumineux. Ce cœur il devient noir. Ce cœur il devient. Ajib, il a des qualités comme il a des défauts. On en fera un jour un discours, Inch'Allah, sur le cœur. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, en essuyant la tête de l'orphelin, la dureté du cœur elle part. Et tes péchés sont pardonnés. Et troisièmement, tuqda hajatuk. Si tu as des choses à faire, des projets à faire, Allah Ta'ala les facilite. Alors attention, mon frère, à l'orphelin, ou bien aux orphelins. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le prophète, comme je vous ai dit, il est mort. Et à l'âge de 8 ans, il a perdu son grand-père, Abdul Muttalib, Shayba. Et avant de mourir, Abdul Muttalib, il a parlé à son fils le plus grand, ou l'un des plus grands. Il s'appelle Abu Talib. Abu Talib, Hadha, c'est lui qui va être le père de Ali, radiallahu anhu, plus tard. C'est pour ça qu'on dit qu'Ali, c'est le cousin du prophète. Mais pourquoi Abdul Muttalib, parmi tous les enfants qu'il avait, il a dit à lui, là, Abu Talib, prends soin de Mohammed. Pourquoi? Parce que je vous ai dit plusieurs fois que Abdul Muttalib, avant de mourir, il s'est marié avec plusieurs femmes. Et que le père du prophète, Abdullah, et lui, Abu Talib, ils avaient la même mère. Ils avaient la même mère et le même père. Donc Abdul Muttalib, c'est une personne sage. Avant de mourir, il a donné à la personne la plus proche. S'il aurait donné à notre oncle, que sa mère, elle est différente, il n'aurait pas aimé comme il faut. Mais le fait qu'il a donné à Abu Talib, la mère de Abu Talib, c'est la même mère du père du prophète. Donc c'est pour ça que c'était la personne la plus proche. C'est pour ça qu'Abdul Muttalib, avant de mourir, Wassa ibnahu, Abu Talib, prends soin de mon fils. Abu Talib, il a pris le wasiya, et Abdul Muttalib, il est mort. Il est mort aussi, pas dans l'islam, comme vous savez. Abu Talib, il le prend en main. Il aime, il lui donne un amour, une compassion, une pitié, une clémence inimaginable. Vous vous rappelez du discours hier, la clémence? La clémence inimaginable. Où il va, il le prend avec lui. C'est devenu son bras droit. Et vous savez qu'Abdul Muttalib, quand il est mort, c'est devenu lui, Abu Talib, le responsable de tout le Mecca. Abu Talib, lui. C'est une personne sage. C'est devenu lui le responsable de tout la Mecca. C'est lui qui tranche, pour le Faisala. Le Maïfkoul Mashwara, Maniafsal, Abu Talib. Qui c'est qui tranche? C'est Abu Talib. Un jour, Abu Talib, il dit, on va partir en Syrie. On va faire le commerce, comme vous savez. Je vous ai dit, ils prennent des pots de mouton, des pots de vache, ils prennent du fromage, ils prennent des dattes, ils prennent. Ils les amènent en série pour les vendre. Et en échange de là-bas, ils achètent de la nourriture, ils achètent du tissu, etc. Ils faisaient leur commerce. Les ilaf et Quraysh. Les allers-retours qu'ils faisaient Quraysh en série. Enfin, Abu Talib, il allait partir, laisser le prophète. Là, le prophète, quand il a vu son oncle, quand il a vu le prophète, il a eu de la pitié pour lui. Il a dit non, je préfère mieux pas le laisser derrière moi. Je le prends avec moi. Fa'akhadhahu. Il a pris avec lui. Et les savants, ils disent qu'il avait l'âge de 10 ans, 12 ans. Entre 10 et 12. Il a pris avec lui. Où tu vas? On va au Moyen-Orient. Il a pris avec lui jusqu'à qu'ils sont arrivés près de Shem, au Moyen-Orient. Ami Ba'ouina. Salam alaikum. Abbas. Arrivé près du Moyen-Orient. Il a manqué à Hauran, l'endroit où il était Ibrahim a.s. avant. Ils ont dit, on va s'arrêter ici, se reposer. Comment vous dites? Il m'a échappé le mot. Pas transit. Hein? Non, quand il y a une caravane, après il s'arrête.
Camp.
Ah, Yazid. D'achat. Ah oui, Yazid. Voilà. Ils ont dit, on campe ici. C'est le mot que je cherchais. C'est bien, Yazid, c'est bien.
10 sur 10, tu as dit.
20 sur 10. Allez, je ne donne personne 20 sur 10, que toi. Ils ont dit, on va camper ici. On va camper. Et ils ont campé. Lakin, devant l'endroit où ils ont campé, il y avait une église. Il y avait un curé, un pasteur, un prêtre, leur père, leur vétéran, hein, leur cousin, appelez-le comme vous voulez. Il était dans son monastère. Tu vois? Et il s'appelait Bouhaïra. Hein? Et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'était son endroit. Jamais il est sorti de son église, de son monastère. Jamais. Tu dis monastère? Et jamais sorti de son monastère. Toujours en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient à la caravane de Abu Talib avec le chameau, comme vous savez, il marche doucement, tac, 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 tac. Et lui, il regardait par la fenêtre. Il a observé un miracle qu'il n'a jamais vu de sa vie. Vous savez, Hadoud, Bouhaïra, c'est un curé. Ces curés-là, et les savants juifs, les rabbins, hein, ils lisent, ils ont lu dans la Bible, c'est marqué jusqu'à maintenant dans Barnabé, la Bible la plus véridique, c'est Barnabé. C'est pour ça qu'on a appelé ce quartier Saint-Barnabé. Mais il est loin d'être saint. Appelez-le juste Barnabé. Hein? Ils ont étudié, c'est marqué dans la Bible et la Torah, qu'il va venir un dernier prophète. Mais personne ne s'y attend qu'il va sortir arabe. personne s'y attend, qui va sortir de la Mecque. La branche de tous les prophètes, elle est descendue d'Ibrahim, elle est descendue de toute la branche des prophètes, elle est descendue, ce n'était pas des Arabes. Ibrahim, après Isaac, Jacob, Joseph, Benjamin, David, Suleyman, Zacharia, Jean, Joshua, tous les prophètes sont venus de la branche, ce n'était pas des Arabes. Qui dirait que le dernier prophète va sortir un arabe dans un patelin en plein désert? Agis. Mais il disait, il va sortir dans un endroit entouré de palmiers et il a dans son épaule gauche, entre ses deux épaules, du côté de l'épaule gauche, il a un tampon. C'est un genre de grain de beauté, mais un grand grain de beauté. Sur ce grain de beauté-là, il y a des poils qui débordent. C'est le tampon, on l'appelle Khatm al-Nubuwwah. C'est le tampon du dernier prophète qui va être envoyé. Donc ils avaient sa description dans la Bible et la Torah. C'est un homme ni grand ni petit, ni maigre ni gros. Il est comme ça, il est comme ça. Il ne s'énerve jamais. Il est comme ça, il est comme ça. Il ne parle pas beaucoup. Ils avaient sa description et il attendait. Parmi les gens qui attendaient sa venue, Héraclius. Héraclius, il a lu dans son livre qu'il va venir un dernier prophète. Et vous savez que Héraclius, comme vous savez, il a failli rentrer dans l'islam. Héraclius, quand il a reçu Abou Sofiane, qu'on va voir plus tard, Inch'Allah, quand il a reçu Abou Sofiane, il lui dit, est-ce qu'il est sorti ce prophète parmi vous? Il a dit oui. Hein? Il a dit oui. Héraclius, qu'est-ce qu'il a fait quand il a reçu le message du prophète? Il a voulu rentrer dans l'islam. Lakin, ses ministres, ils se sont révoltés. Ses ministres se sont dit, quoi? Tu quittes la religion de Jésus, tu rentres dans la religion de Mohammed? Oh, c'est fini. Quand il a vu que sa royauté, elle allait prendre un coup, qu'ils allaient lui mettre un coup de pied, il a dit, non, mais en vérité, j'ai fait ça, Mourek, pour vous tester. Hein? C'est pas vrai en vérité, moi je ne quitte jamais ma religion. Mais qu'est-ce qu'il a dit Héraclius à Abou Sofiane, entre lui et lui, tête à tête? Il lui a dit, si c'est vrai ce que tu dis, qu'il est sorti, cette personne, il possédera l'endroit de mes pieds là. L'endroit où ils sont posés mes pieds, il le possédera. Parce que c'est marqué dans la Bible. Et vous savez qu'après l'islam, jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, il est en Syrie, c'est un pays musulman. Le Liban, c'est un pays musulman. Et la Jordanie, c'est un pays musulman, etc. Héraclius, il a voulu rentrer, mais à cause de... Hein? Fabouhaïra, il regardait, qu'est-ce qu'il voyait comme miracle? Il voit un homme, un roulam, un jeune de 10 ans, 12 ans, Yahmed, il marche, il y a un nuage, il marche au-dessus de sa tête. Il le couvre du soleil, de la chaleur du soleil. Les autres, Tahtasrana, la chaleur du soleil, et un jeune de 10 ans, 12 ans, en train de marcher, sur le chameau, c'est-à-dire sur sa monture, il y a un nuage qui le couvre, qui le protège. Et Bouhaïra, tu ne l'endors pas. Hein. Bouhaïra, comme je vous dis, c'est un savant, dit la Bible. Elle dit, ah, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait Bouhaïra? Il leur a demandé de camper ici. Arrêtez-vous. Faites transit. Abou Talib, il a l'habitude de faire des allers-retours. Tu n'es jamais descendu, toi? Tu nous as jamais arrêtés? Tu nous as jamais fait à manger? C'est quoi ça aujourd'hui, tu nous arrêtes? Avec Bouhaïra, il va dire. Il leur a dit, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous faire sadaqa. Je vais vous faire à manger. Je vous demande, je vous prie, de tous venir, du plus petit au plus grand. Esclaves et hommes libres, comme on dit. Vous venez tous. Il a dit, ben, tu es devenu un brave mec. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Abou Talib, etc. Ils ont dit au prophète, sallam, et j'ai oublié de vous dire, quand le prophète il est descendu de la chamelle, il s'est mis sous un arbre. Qu'est-ce qu'elle a fait cette arbre? Bouhaïra, il regarde. Le nuage s'est arrêté. Quand le prophète s'est mis sous un arbre, l'arbre, il a penché comme ça avec ses branches, il a penché comme ça pour donner l'ombre au prophète. Bouhaïra, il regarde. Bouhaïra, c'est là qu'il a dit, je fais une sadaqa, vous êtes mes invités aujourd'hui. Vous venez tous. Donc, ça va. Quand il les a tous invités, Abou Talib, il a dit au prophète, sallam, toi tu restes avec les chamelles et tu gardes le troupeau, vous dites. Tu gardes le troupeau, etc. Nous, on va manger chez Bouhaïra, après on revient, on t'emmène à la nourriture. Moi, ça, c'est un jalous. Bakhia, tahta shajara. Ils sont rentrés. Bouhaïra regarde, il visionne. Celui que je cherche, il n'a pas. Vous n'êtes pas des mannequins. C'est pas ce que je cherche. Il a demandé à Abou Talib, vous avez laissé personne? Vous avez amené? Il a dit, on est tous venus. On est tous venus. On a laissé juste un roulem. Un jeune qui est dehors, il s'occupe de... Il a dit, non, je vous ai dit, vous venez tous. Amenez-le. Enfin, vous voyez, je suis regardé. Un jeune, ben, amenez Mohamed. Appelez-le. Il vient, Mohamed, il rentre. Il se nourrit.
Ruhayla, il attrape tout seul, tu vois, il lui pose des questions. Il lui pose des questions. Comment tu dors? Qu'est-ce que tu vois dans le rêve? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu vois? Parmi les trucs qu'il a fait, il a découvert l'épaule, il a découvert entre les épaules le tampon. Grain de beauté que je vous ai dit. Il voit le tampon. Buhayra tayaqqan. Certitude totale, c'est lui. Avec le nuage, avec l'arbre, avec le tampon, la description, c'est toi. Il le voit, vous savez, c'est un prophète. Il est préparé par Allah. C'est une personne, il est sage, reposé, beau. Vous savez, en Arabie Saoudite, la plupart des gens, c'est des maths. Comment, parmi tous les gens maths, il te sort une personne, son visage, comme ils disent les compagnons, quand ils l'ont décrit, ils ont dit, il est plus beau que la pleine lune. T'imagines la pleine lune? Les gens en Arabie Saoudite, à 50 degrés de la chaleur, sont tous maths. Les Yéménis, les gens qui habitent au Koweït, Qatar, vous les connaissez? C'est des maths. Mais Aza, il a un visage plus blanc que le Badr. Regardez la description des compagnons, quand je suis rentré, l'imam Ibn Ta'alaba, il dit, quand je suis rentré dans la mosquée, j'ai vu un homme au visage blanc, noir, sur son coude, il était allongé dans la mosquée, je me suis dirigé vers lui. Ajib, il avait un visage, il le comparait à la pleine lune et il disait que le visage du prophète il était plus beau que la pleine lune. Ajib, Allah Ta'ala il lui a donné, c'est la plus belle créature. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a bien capté Buhayra, il lui a dit, il a regardé, il lui a posé les questions, etc. Ensuite, il a laissé. Il a su que c'était de la prophète. Il a attrapé Abu Talib. Il a dit, où tu vas? Il a dit, je vais faire le commerce. Il a dit, Ansahok, je te donne un conseil. Prends cet enfant et retourne-le tout de suite à la Mecque. Il a dit, Hada Ibnuk, il n'a pas voulu dire c'est le prophète. Il lui a dit, Hada Ibnuk. Avant de lui dire c'est ton fils, il lui a dit, c'est qui cet enfant? Abu Talib lui a dit, c'est mon fils. Il lui a dit, c'est pas vrai. C'est pas ton fils. Cet enfant-là, en principe, son père, il devrait être déjà mort. Son père, il devrait être déjà mort. Abu Talib lui a dit non, c'est le fils de mon frère, étant donné que je l'adopte. C'est comme mon fils, mais son fils, son père, c'est vrai qu'il est mort. Il lui a dit, je te conseille, retourne-le à la Mecque. Cet enfant-là, la Hushem, ça va être un quelqu'un. Retourne-le. Parce que j'ai peur que tu vas aller au Moyen-Orient. Les Juifs ou les chrétiens, ils vont le voir, j'ai peur qu'il nous fasse saut. Il nous fasse du mal. Retourne-le. Il s'est étonné, il a pris son enfant, demi-tour, il l'a ramené à la Mecque. Hein? Il est resté à la Mecque, Abu Talib, il commence à faire le commerce tout seul, etc. Toi, tu restes à la Mecque. Sar, ils ne comprennent pas. Ils savent qu'il est miraculeux. Celle qu'elle a fait boire du lait, comment sa mère, elle a mis au monde, elle avait du miracle. Celle qu'il a pris pour l'allaiter, elle avait un miracle. Abu Talib, il avait un miracle. Abdel Muttalib, il avait un miracle. Haji, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Mystère. Quand il est revenu à la Mecque, le prophète sallam, après des mois, tous les gens l'aimaient à la Mecque. Il appelait tous le confiant, l'Amin. Il n'a jamais menti dans sa vie. Même en plaisantant, il ne ment jamais. Elle est venue une vieille, elle lui a dit, ya Rasulallah, est-ce que je vais rentrer au paradis? Il a dit, là. Non. Elle s'est mise à pleurer, la vieille, elle a dit, toi, elle te vient aujourd'hui le hajj, elle te vient une autre chose, tu lui dis, non, je crois qu'elle va pleurer. Elle va t'envoyer une mitraillette des insultes. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, et toi, après, pas. Je crois qu'elle va pleurer. Et il lui a dit, le prophète Sassim, tu ne rentres pas au paradis. Quand elle s'est mise à pleurer, le prophète Sassim lui a dit, non, tu ne rentreras pas au paradis, vieille. Parce que les femmes qui vont rentrer au paradis, Allah Ta'ala va les remétamorphoser, il va les transformer, elles vont devenir, mashallah. Hein? Cours pour la description du paradis, ce n'est pas ça, le moment. Hein? Pour Allah Ta'ala, il va te transformer. Hein? Ben même le prophète, quand il plaisantait, il disait la vérité. Enfin, tous les gens de la Mecque l'appelaient le confiant, Al-Amin, Mohammed Al-Amin, Al-Sadiq, le véridique. Parmi les mois, les années qui passent, il y a une femme de l'autre côté, dans la Mecque, je crois que vous la connaissez, elle s'appelle Khadija. Aujourd'hui, en français, ils l'appellent Khadija, ou la Khadija, ou la, je ne sais pas. Comment ils appellent Khadija? Hein? C'est pour ça que les mères aujourd'hui n'aiment pas trop les noms qui passent du côté des Arabes. Elles cherchent dans les noms, elles cherchent, elles ne veulent pas. Elles passent devant Fatima, non, devant Khadija, non, devant Zainab, non, devant Ruqya, ouf. Elle va vers le côté de Sonia, Linda, ça rapproche un peu du côté des Italiens. Sabrina, ah Sabrina, c'est bien, hein, tu vois. Sabrina. Regardez les jeunes filles de maintenant, il y en a une qui s'appelle Ruqya, ou la Mukulthum, ou la Fatima, ou la Zainab, ou la Khadija. Il n'y a que des Linda.
et des Sonia, et des Sabrina, et des Dounia. Il y a des Dounia. Il y a des filles, elles s'appellent Dounia. Nous, on dit Dounia, casse-toi, et elle a dit Dounia, viens. Marche à l'envers. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qui va se passer. Cette femme-là, Khadija, c'est une bourgeoise. Elle a été mariée deux fois. Avec deux maris, elle a divorcé. Un homme qui s'appelle Adir et un homme qui s'appelle Abu Hala. Ensuite, elle s'est retrouvée, elle n'a pas de mari. Mais Akin, elle était très très riche. Elle donnait son argent aux gens. Nous, on appelle ça en arabe, dans l'islam, al-mudaraba. C'est-à-dire, je te donne mon argent, et toi, tu fais le commerce, et le bénéfice, on partage 50-50. Comment vous appelez ça en français ? 50-50. Non, c'est pas 50-50, c'est 50-50. C'est ça, là, ce truc que moi, je te donne mon argent, et toi, tu travailles, et on partage le truc. Comment vous appelez ça ?
Associé.
Normal. Associé, allez. Commerce. Enfin, Khadija, elle faisait ça. Elle donnait son argent. Les gens, ils allaient au Moyen-Orient, ils achetaient, etc. Elle fait Ida, tu vois. Elle partageait avec ceux que... Parmi les gens qui travaillaient chez Khadija, elle avait un serveur qui s'appelle Maysara. Maysara. Maysara Hada, il était seul. Il voulait prendre la compagnie avec lui. Donc Khadija lui dit, cherche, tu trouves quelqu'un qui fait le commerce avec toi. Et comme par hasard, Abu Talib, il attrape le prophète Mohammed et il lui dit, mon fils, moi je suis fatigué. Regarde-moi, je gère la Mecque entière. Et moi, je suis fatigué. Et j'ai entendu que Khadija, elle a du blé. Elle a du blé. Hein? Et elle cherche quelqu'un pour lui faire le commerce. Qu'est-ce que tu en penses si tu vas? Malgré que j'ai peur pour toi, les gens du Moyen-Orient, j'ai peur pour toi quand on te fait du mal, mais on est arrivé à un stade... Il est arrivé le couteau à la gorge, comme on dit. Qu'est-ce que tu en penses, Mohamed, si tu vas faire le commerce? Rasoul s'est accepté. Il a dit à Maïsara, si elle veut Khadija, moi je vais. Khadija, elle entendait parler. Elle entendait parler de lui. Mohamed, confiance, il est jeune par rapport à elle. Vous allez voir qu'elle agit là et qu'elle agit là. Mec de confiance, mec véridique, etc. Oui, j'accepte. Voilà, tu sais avec qui tu vas faire le commerce, c'est Khadija. Tu vas faire avec un mec, subhanallah, al-baraka, qui fait ça, al-baraka, elle descend par... Enfin, il a accepté de faire le commerce. Il part avec Maïsara. Ils partent, ils prennent l'argent, tu vois. Ils prennent le commerce, ils partent. Ils vont jusqu'au Moyen-Orient. Donc si on vient te poser la question, est-ce que le prophète il a fait le Moyen-Orient? Tu dis non, frère, il n'est jamais allé. Le frère, il nous a dit dans le cours, il est arrivé au milieu du chemin, quand le curé lui a dit repart, il est reparti. Le prophète, il est allé au Moyen-Orient. Par rapport à ça. Il a fait le commerce. Il est revenu. Il a gagné, et Maïsara, il dit, on a gagné le double de ce que j'avais l'habitude de gagner. Le double. Quand ils reviennent, Maïsara, il prend la fortune, et il va donner à Khadija. Mais il va venir lui raconter des miracles. Il va dire, à Khadija, wallah, j'ai vu cet homme, il est ajib. Pourquoi il est ajib? Parce qu'il y a cet homme, c'est pas un homme ordinaire. Pourquoi? Il lui a dit, Maïsara, il dit à Khadija, wallahi, je l'ai vu, c'est un homme baraka. Quand il achète, quand il vend. Mais le plus miraculeux dans ça, il y a Khadija, je l'ai vu quand il était sur sa chamelle, comme si deux anges le couvraient avec ses ailes. Je l'ai vu de mes yeux, il y a Khadija. Et Khadija, elle connaît Maïsara, ça fait des années qu'il travaille pour elle. C'est vrai, il ne ment jamais. Et elle entend parler sur Mohamed, c'est un homme véridique. C'est un homme de confiance. Comme vous l'êtes, vous avec vos épouses. Alhamdoulilah. On n'est pas homme véridique et confiant avec nos épouses, ou là qui Allah, ça va pas, Benaka. C'est comme si deux anges ils nous couvrent avec les ailes. Hein? Khadija, quand elle a entendu ça, elle a flashé sur lui. Vous dites ça en français, coup de... Voilà, coup de foudre. Elle a dit, je veux l'épouser. Mais est-ce qu'il va accepter? Donc elle a dit à une copine à elle qui s'appelle Nafisa. Nafisa, ça veut dire quelque chose de précieux. Nafisa, quelque chose de précieux. Elle a dit, va voir, va demander à Mohamed s'il veut s'épouser, s'il veut se marier. Nafisa va voir Mohamed, elle lui dit, ya Mohamed, Est-ce que tu veux te marier avec une femme qui a beaucoup d'argent, une femme noble, une femme shérifa, une femme aqla? Parce que tous les gens de la Mecque espéraient se marier avec elle. C'était une personne, elle était sérieuse, comme vous dites, elle était disciplinée, comportement, en plus elle avait de l'argent, en plus elle était agile, elle avait toutes les qualités. Tous, ils espéraient se marier avec elle. Peut-être que la plupart, c'était pour le... Tu vois, mais... Vous voulez se marier avec elle. Là, c'est le contraire. C'est elle qui demande un mariage. C'est ça, l'agile. Elle dit à Nafissa, elle dit à Mohamed, est-ce que tu veux te marier? Elle lui dit, ouais, mais qui? Elle lui dit, Khadija, qu'est-ce que tu en penses? Le prophète, il a 25 ans, hier. Et Khadija, elle en a 40. Maintenant, la différence. Combien de différence, là? Entre 25 et 40, 15. كيف تجين؟ لا 15 عام يبعوينه 15 le prophète صلى الله عليه وسلم il a eu 11 épouses. Comment vous les mécréants, les orientalistes, vous osez marquer dans des livres le prophète il s'est marié parce que c'était une personne qui pensait qu'à ses envies? Arab muslimin, tu marques ça dans les livres. Mohamed il s'est marié, il penserait qu'à son envie. Si c'était une personne qui pensait à ses envies, c'est après une femme de 40 ans. Le prophète s'est marié avec Khadija, elle avait 40 ans, 15 ans de plus. Il s'est marié avec son deuxième épouse, Saouda, elle était noire de peau. Il s'est marié avec Ummu Salama, elle était veuve. La seule femme qu'il a prise, le prophète s'est marié jeune, qui ne s'est jamais mariée, c'est Aïcha. C'est la seule, il a pris jeune parce qu'elle apprenait, il comptait sur elle pour qu'elle apprenne des hadiths, pour qu'elle apprenne le Coran, pour qu'elle puisse transmettre aux autres femmes. Et Aïcha, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand les compagnons ils étaient en désaccord, ils allaient voir Aïcha. Aïcha, comment il faisait qu'il amenait le prophète? Et Aïcha, comment il faisait la douche le prophète? C'est Aïcha qui nous racontait comment il faisait le prophète. Le prophète s'est marié avec Hafsa, divorcé. Il s'est marié avec Maïmouna, divorcé. Ummu Habiba, divorcé. L'autre veuve, divorcée, noire, vieille, jeune, elle a des enfants. Hajib, Ummu Salama avait plusieurs enfants. Elle lui dit, Rasoulallah, moi j'accepte de t'épouser. Quand il est mort son mari dans la guerre, Abba Salama. Elle lui dit, j'accepte de ton mari, mais Rasoulallah, j'ai des enfants. 3-4 enfants, quoi. Alors, celui-là dit tes enfants, c'est mes enfants. Comment vous osez après dire que Mohamed c'était quelqu'un qui pensait à ses envies, c'est quelqu'un ci, c'est un sacré. Et en plus, le prophète s'est mis à marier avec Khadija. Elle avait 40 ans. Il a vécu avec elle 10 ans, Yahikhwa. 10 ans. Il n'a pas épousé une autre femme. Si c'était quelqu'un qui pensait aux autres femmes, il en aurait épousé. Par contre, je vous poserai la question, pourquoi il n'a pas pris une deuxième femme? Pendant 10 ans, il restait Khadija. Si j'oublie, vous me faites rappeler. فالمهم نفيسة محمد رسول الله جوي نفيسة فبوا خديجة قال لي يا خديجة أبشري يا خديجة je t'annonce une bonne nouvelle محمد عليه الصلاة والسلام il a accepté. Donc خديجة qu'est-ce qu'elle fait? Le prophète صلى الله عليه وسلم il va parler à son oncle Abu Talib et à son deuxième oncle Hamza. Aïe, qu'est-ce qu'ils font? Hamza était musulman. À l'époque, tu n'es pas musulman, Hamza. Et Abu Talib non plus. Les deux, ils vont demander Khadija à l'oncle de Khadija, Amro, Ibn Khouaylid, Ibn al-Asad. Ils vont lui demander Khadija, épouse pour Mohammed. La dot, c'était 20 petits chameaux. Comment vous dites les enfants des chameaux? Hein? Les petits chameaux. Les enfants. La caf. Hein? Les petits chameaux. Oui, c'était sa dot. Et voilà que, alhamdoulilah, Khadija, elle épouse Mohammed alayhi salatu wa sallam. Combien d'enfants lui a donné Mahana?
6.
Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya ikhwa, il a eu 6 enfants avec Khadija. Le 7e, c'est pas de Khadija. Il a eu 6 enfants. Dans les 6 enfants, il avait 2 garçons et 4 filles. Il avait le premier qui s'appelle Al-Qasim. Al-Qasim, c'est lui qui départage. Qasim, c'est le plus grand. Mais il meurt en étant bébé. Ensuite, il vient un deuxième, il s'appelle Abdullah. Et on l'appelait aussi Tahar, le pur, le propre, le pur. Et on l'appelait aussi Tayyib. Il avait 3 prénoms, lui. Là. Tayyib, ça veut dire le bon. Walakin, il meurt aussi bébé. Allah, il ne voulait pas que le prophète il ait des garçons. Ensuite, il a eu 4 filles. Il a eu Zainab. Il a eu Ruqayya. Ruqayya, vous savez Ruqayya. Il a eu Ummu Kulthum. Et il a eu la dernière que vous connaissez tous, Fatima. 4 filles. deux garçons. Elle lui a donné 6 enfants. Et vous savez que le prophète, il en a eu un 7e. C'est un garçon, il a appelé Ibrahim, il est mort à 18 mois, mais sa mère, c'était Maria. C'était pas Khadija. Donc le prophète, Khadija, lui a donné 6 enfants. Et Khadija, elle aimait beaucoup le prophète, elle le respectait d'un degré ajib. C'était un homme sage, un homme bon. 6 enfants avec elle, 10 ans, Aïcha Ma'a. Vous savez, quand elle... vous savez que Khadija était musulmane, quand elle est morte, un jour, avant qu'elle meure, je vous donne juste quelques qualités de Khadija. Un jour, elle se ramène avec un récipient, il y avait du manger dedans. Jibril, alayhi salam, il est descendu voir le prophète. Il lui a dit, « Ah, Mohammed, elle va te venir, Khadija, maintenant. Avec un récipient, il y a de la nourriture, ou bien il y a de la boisson. Quand elle vient, Allah subhanahu azza wa jal, il lui passe le salam. Ouvrez bien vos oreilles, les frères. Allah subhanahu azza wa jal, il lui passe le salam et passe lui aussi le salam de ma part. Et dis-lui, ya Muhammad, qu'Allah il lui a préparé une maison au paradis, un palais fait en or. Il n'y a ni fatigue ni cri dans ce palais. Bashirha bi bayt fi al-janna min qasab min al-dhahab la nasab fihi wa la sakhab. Ni cri, ni gueulade, ni rien. Dans les maisons, vous savez, ça crie les enfants, ça crie si, jibahna, prends là-bas, fajada, les coups de couteau qui partent, les coups de couteau, les fourchettes. Dans la maison, c'est calme. Ni cri, ni fatigue. La femme ici, elle se fatigue. Fait le ménage, pousse le living, repousse le. C'est des muscles. J'étais marié avec elle, c'était un T1, maintenant que c'était 3 T4. Hein? À force de pousser les meubles et revenir, et ouais, hein? Elle se fatigue. Malgré que les filles d'aujourd'hui ne se fatiguent pas, hein. Arrêtez. Hein. Se fatiguer nos mères. Nos mères, oui, mais quand tu voyais qu'elle posait la bassine, elle allait laver le linge pour 3-4 enfants, on avait de la pitié pour elle. Elle allait faire un manger, mais elle posait la cocotte avec de 10 personnes, elle a tourné, mais elle se fatigue. Elle allait repasser le linge, elle se fatigue. Elle allait faire les commissions, mesquinales avec son panier, comme ça, la pauvre, se fatigue. Les filles de maintenant, c'est vrai, se fatigue. Leur travail, c'est l'index. Appuie sur le bouton de la cafetière. La cafetière, elle descend. Appuie sur le bouton de la machine à laver. Maintenant, une fois la machine, elle lave, elle rince et elle sèche. Hein? Avant de sortir, tu vois, mettez les épais. Maintenant, elle sèche. Hein? Avant, elle fait un peu la vaisselle, elle est fatiguée. Elle a dit à son mari, moi, je suis fatigué, tu comprends, parce que deux fois, je lavais le verre, ça m'a coupé un peu, tu comprends, regarde mes mains. Elle a fait mesquine un peu quelques heures supplémentaires dans le travail. Achara al-Hassid, il l'a acheté, comment ça s'appelle, avec lave-vaisselle. Hein? De temps en temps, il lui disait, chauffe-moi le casse-croûte, le manger pour que je l'amène au... Je suis fatigué, moi, regarde, je dors, moi, j'ai mal au dos, j'ai mal au bassin, j'ai mal. Gâteau, par contre, il y a un petit produit, un nouveau produit qui est sorti. C'est un produit, ajib, hein, tu appuies juste ton index, juste ton casse-croûte, il est chaud. Galha, c'est quoi ça, Galha, gâteau, Galha, gâteau, parce qu'elle est à jour, elle a, bien sûr, toi, tu vas travailler, tous les revues... Ça, c'est son Bukhari. Hein. Il s'appelle micro-ondes. Tu l'amènes à la maison, même si je ne me lève pas, moi, tu mets ton index, je te garantis, 2 minutes après, c'est chaud. Ça, c'est les femmes d'aujourd'hui. Avec toute cette facilité, elles ne veulent pas faire des enfants, et elles n'aiment pas les enfants, et elles ne patientent pas, et elles... Fragilité. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé avec Khadija? Annonce-lui une maison au paradis. Dors. Ni fatigue, ni... Mais cherchez le mot. Crie. Ça, c'est Khadija. Elle lui a donné 6 enfants. Les frères, dans les 6 enfants, là, 2 garçons, ils sont morts. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, la sagesse qu'ils sont morts, les garçons, parce que comme ça, parce qu'il y a des gens, ils vont croire qu'Ad Mohamed va mourir, c'est obligé que ce soit un de ses fils qui vient prendre la succession. C'est obligé qu'un de ses fils, il prend la succession. Comme ils ont fait les chiites aujourd'hui. Les chiites, ils sont en désaccord avec nous, pourquoi? On est des kofars, nous. On est des mécréants à leurs yeux. Pourquoi? Parce que vous, vous dites qu'Abou Bakr, c'est un homme bon. Ben, bien sûr, c'est un homme bon. Et comment que c'est pas un homme bon? Ben, Abou Bakr, il a volé la succession à Ali. Il a volé la succession à Ali. En vérité, c'est lui qui devait venir président après Mohammed, c'est Ali. Mais Abou Bakr, c'est-à-dire qu'il l'a volé. Et tous les compagnons sont partis donner le pacte à Abou Bakr. Ah ben, Abou Bakr, c'est un mauvais, et c'est un kafir, et tous les gens qui l'ont donné le pacte, ben c'est des kofars. Et vous, si vous lisez rien, c'est des kofars.
Regarde. Tu attrapes un chiite bête. Attrape-le. Dis-lui, frère, allez, supposons que je rentre avec toi dans... Je rentre avec toi dans ton idée bidon, là. Tu comprends rien. Ton idée bidon. Allez, Abou Bakr, il a volé. Pourquoi, mon frère, dans l'islam, quelqu'un qui vole, on le fait sortir de l'islam? Allez, Abou Bakr, il a volé. Allez, il a volé la succession à Ali. Allez, il a volé. Quelqu'un qui vole, on le fait sortir de l'islam? Dans quel verset c'est marqué? Dans quel hadith c'est marqué quelqu'un qui vole, on le voit? Allez, il lui a volé la succession, y'a alors. C'est un pervers, c'est un péché, c'est aller, on lui coupe la main, d'accord, y'a alors. On le fait sortir de l'islam? Ça devient kafir? T'es tout fou! Et je ne veux pas rentrer dans les détails, si vous entendez ce qu'il dit sur Omar, sur Aïcha, sur... Incroyable. Ça lui a donné deux enfants. La question que je vais vous poser, pourquoi les garçons ne sont pas restés vivants, vous allez me dire parce que la succession elle est passée chez eux. Allez, Jackson. La question, mes frères, c'est pourquoi Allah Ta'ala lui a donné quatre filles. Billahi alaykoum, quatre filles lui a donné. On les répète, Zaynab, et Ruqayya, et Umm Kulthoum, et Fatima. Hein? Quatre. Quatre filles. Il n'y en a aucune d'elles qui est morte. Allah, il les a laissées vivantes jusqu'à qu'elles ont grandi, jusqu'à qu'elles sont devenues musulmanes, jusqu'à qu'elles se sont mariées et après elles sont mortes. Mais il n'y en a aucune d'elles qui est morte. Petite. Pourquoi? Alors, sur les trois garçons, il naît le Qasim, il meurt bébé. Il naît Abdullah, il meurt bébé. Il naît Ibrahim. Après, un an avant qu'il meure le prophète, il naît Ibrahim. Il reste un peu quelques mois, on va dire un an, 18 mois. Hop, Ibrahim aussi meurt. Pourquoi? Quatre filles, elles restent vivantes. Pourquoi? Vous savez pourquoi, les frères? Parce que le prophète, il a grandi dans une ambiance, dans un endroit où Kuffar, Quraysh, ils enterraient leurs propres filles vivantes. Pour eux, c'était haïb. C'était pour eux, c'était... comment tu dis haïb? Une honte d'avoir une fille. Il enterrait vivante. Si une des filles, elle serait morte du prophète, alayhi salam, Kuffar, Quraysh, tu as vu, même Mohammed, lui-même, il n'aime pas les filles. C'est lui-même qui l'a tué. C'est lui-même qui l'a enterré. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé Mohammed de ces critiques-là, il lui a gardé ses quatre vies vivantes. Aucune d'elles est morte. Parce que si une d'elles, elle serait morte, ils auraient dit, regardez, il est comme nous. Enfin, le prophète s'est mis à se marier, les chers frères, avec Khadija. Il avait 25 ans. Hein? 5 ans après, il va venir une situation hajib. Qu'est-ce qui va se passer? La mer qu'elle est en train de se décomposer, avec la pluie, avec le soleil, avec à force de toucher la mer, les pierres ont commencé à se décomposer. Vous savez que la Kaaba a été bâtie 4 fois. Elle a été bâtie par les anges. Deuxième fois, elle a été bâtie par Ibrahim. Troisième fois, elle a été bâtie, celle que je vais vous raconter maintenant, par Kuffar Quraysh. Et la quatrième fois, elle a été bâtie par Abdullah ibn Zubayr. Abdallah ibn Zubayr, c'est un compagnon qui il y avait un président au Moyen-Orient, il s'appelait Abdelmadik ibn Marwan, il s'est mis contre lui, il s'est révolté, donc il s'est caché à la Mecque, l'autre il attaquait de dehors avec les... Comment s'appelait l'arbre là qui catapulte, à force d'envoyer des catapultes de feu jusqu'à qu'ils ont brûlé la Mecque, etc. Abdallah ibn Zubayr, il a rebâti, et lui il est venu derrière, il a redétruit. Un moyen. 4 fois. Kuffar Quraysh se sont réunis, mes frères. Et ils ont dit, il faut qu'on refait la Kaaba à neuf. Taïb, on fait la Kaaba à neuf. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avance un homme. Il s'appelle Amr ibn Wahb. Il dit, on commence. Il prend une pierre, les frères. C'est marqué dans Sirat ibn Hisham et Sirat ibn Kathir. Dans le livre Le Commencement et la Fin. Lisez. D'ailleurs, il nous raconte des bêtises. Marqué. Il a pris Amr ibn Wahb, il a pris une pierre pour commencer à vouloir décomposer la Kaaba pour la rebâtir. Mais ils ont une bonne intention, hein, attention. Quand il a pris une pierre de la Kaaba, la pierre s'est enlevée de ses mains et elle s'est reposée dans son endroit. J'ai agi. Il a pris un parpaing, comme vous dites. Il a pris dans ses mains le parpaing, il a sauté de la main de la personne. Il s'est remis dans sa place, dans son endroit. Amr ibn Wahb, khaf. Il faut pas le courage, qu'ils étaient avec lui, les deux, trois grosses têtes, ils étaient à côté de lui, ils ont eu peur. C'est une question, on dirait qu'Allah, il ne veut pas qu'on la touche. Enfin, Amr ibn Wahb, il leur a dit là, moi il me passe à l'esprit quelque chose d'autre. On a la niya de rebâtir la Kaaba, Allah il ne peut pas être en colère contre nous.
Mais pour financer la Kaaba, il faut qu'on mette que l'argent halal. Éviter l'argent de prostitution, éviter l'argent des intérêts, éviter l'argent de traiterie, éviter l'argent de vol. Il faut qu'on mette que de l'argent halal. Attention. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous préparer avant qu'on rebâche la Kaaba. Enfin, Quraysh se regardait, Abu Jahl, etc. Ils se regardaient. Ça va. Ils ont rassemblé l'argent. Que du halal pur. Ils ont rassemblé l'argent. Quand ils ont rassemblé l'argent, ils ont regardé. Ça suffit pas. Ça suffit pas quoi? La vraie Kaaba qu'il a bâtie Ibrahim alayhi salam, la vraie Kaaba, elle allait de la pierre noire comme vous voyez maintenant là, elle allait jusqu'au mur tordu. Avant, elle n'était pas tordue, c'est Ibn Zubayr qui l'a. Avant, vous voyez dans la mer, vous avez dû voir dans la télé, il y a un mur tordu là. Vous l'avez vu à la télé? Il y a un mur tordu. Il y a la mer, la chambre noire devant vous là. Et juste à côté, il y a un genre de mur qui est en forme d'arc. Regarde comment ça là. Vous n'avez pas vu ou là? Il y a comme moi qui. Hein? Un cercle. Il est petit là. Ah. Voilà, c'est quoi? Ouais, les frères ne vont pas voir. Tu as vu ce petit mur là? Voilà. Pas de fête, Allah y avait comme il. Ah, il y avait la Kaaba. Il y a la Kaaba. Juste à côté de la Kaaba, il y a un mur tordu là. Un mur, comme ça. Ce mur là, il nous fait montrer que la vraie Kaaba qu'il a bâtie Ibrahim alayhi salam, elle allait de largeur jusque ce mur. N'écoutez pas les gens qui disent ouais, ça c'est Ismaïl alayhi salam qui était enterré là, et c'est tel fils, c'est tel fils. C'est pas vrai ça. Ça c'est les gens avec Radio Trottoir, ils ramassent. Le mur tordu là, c'est nous faire montrer le signe de la vraie Kaaba qu'il a bâtie Ibrahim. La Kaaba qu'il a bâtie Ibrahim, elle allait. Elle était très longue comme ça. Hein? Elle allait jusqu'au mur tordu. Lakin Kuffar Quraysh, quand ils ont rassemblé l'argent, ils ont découvert que ça ne va pas suffire. Et n'oubliez pas que la Kaaba qu'il a bâtie Ibrahim, il a mis deux portes. Une porte, tu rentres par là, une porte, tu sors de l'autre côté. C'était permis pour tout le monde. Tout le monde y rentre. Lakin, quand ils sont venus Kuffar Quraysh, c'est tous des généraux, des colonels. Ça, c'est un endroit que pour nous. Donc, parmi les plans, l'architecte qui leur a fait faire, il leur a dit, première des choses, il faut lever la porte. Il ne faut plus la laisser à terre. Vous levez la porte. De 1 mètre, 1 mètre 20, vous la levez. Après, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, quand ils viennent les ministres, les présidents, ils veulent rentrer dans la Kaaba, il faut qu'ils amènent le truc comme les escaliers de l'avion, là. Tiens, là. Je sais pas comment vous appelez ça, là. Escalator. Escalator. Hein? Et deuxième truc qu'ils leur ont dit, il faut que vous fermez la porte de l'autre côté. La Kaaba, maintenant, n'a qu'une porte. La porte du côté de l'ouest, là-bas, là, ou du côté du nord, vous la fermez. Vous laissez que la porte du côté sud. Fermez-la, là, celle du nord. On n'y rentre que nous. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'y rentrent que eux. Et alhamdoulilah. Ils ont rassemblé les sous, ils ont dit ça ne nous suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit on rappelle ici la Kaaba. On laisse ainsi pour que les gens savent que la vraie Kaaba, qu'il a bâti Ibrahim al-Bashka là-bas. Et nous, on fait ce qu'on peut. Ah, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il va maintenant? Il va décomposer. On a rassemblé l'argent maintenant. Qu'est-ce qu'il ose la toucher? تقدم الوليد بن المغيرة le père de Khalid ibn al-Walid il n'était pas musulman il s'est approché il a dit maintenant on a une bonne intention on a rassemblé l'argent halal pourquoi Allah Ta'ala il sera en colère contre nous il s'est approché il a commencé à lever la première pierre ils ont regardé il n'y a rien la deuxième pierre ils ont regardé s'il y a quelque chose il n'y a rien ils ont commencé à la décomposer comme ça jusqu'à qu'ils soient arrivés au 16 de la case tu dis le 16 la fondation. Jusqu'à qu'ils soient arrivés à la fondation de la Kaaba. Les frères, la fondation de la Kaaba, c'est des pierres vertes. Ce n'est pas des pierres que vous voyez là. Allahu a'lam s'ils sont rubis, Allahu a'lam s'ils sont. Je ne sais pas. C'est des rubis vertes. Quand al-Walid ibn al-Mughira, il a mis sa mi'wal, la pioche, pour bouger une des pierres vertes, la terre elle a tremblé dans la Mecque. Ces pierres, tu ne touches pas. Pourquoi? Parce que le trésor, comme il a dit le prophète, le trésor de la Kaaba, qui va sortir plus tard sous la main d'un Éthiopien, cette Kaaba, elle contient un trésor. Ce n'est pas une science, voilà, un trésor. Mais quoi exactement? Allahu A'lam. Yazid, assieds-toi. Yazid.
Non, c'était pour le fait, je voulais
d'accord, merci. Barakallahu fik. Ça y est, ça va. Il y a un trésor. quand le Walid il a voulu bouger cette pierre verte, la Kaaba, la Mecque entière, elle a tremblé. Et le Walid, il a su que, arrivé à la fondation, il faut s'arrêter. Pas toucher la fondation. Elle mouille. Ils ont rebâti la Kaaba. Pierre, avec pierre, etc., etc. Les tribus se sont mis côte à côte, main à la main. Main à la main, travailler ensemble, etc. Il est venu l'Abbas, l'oncle du prophète, un des oncles du prophète, qui est rentré dans l'islam plus tard. L'Abbas. Et vous savez qu'avant, les gens de Quraysh, ça ne leur faisait rien de rester nus. Ça ne leur faisait rien. La preuve, ils venaient femmes et hommes. Ils venaient femmes et hommes. Ils venaient faire le pèlerinage, leur pèlerinage à l'époque. Et quand ils arrivaient devant Tawaf, où il faut faire les sept tours, là, ils ont dit, attends, nos habits sont sales. Nos habits, on fait avec les péchés. Et ça, c'est un endroit saint. Chétan, il joue avec eux. Ils enlevaient tous leurs habits, femmes et hommes, et ils faisaient les sept tours, là, de Tawaf, nus. Hein? Et comment ils faisaient Tawaf? Tu veux savoir? Il manque plus que... Comment il s'appelle, avec le rocker, avec qui... Ils applaudissent, ils suivent. C'est cité dans le Coran. وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. Ils sifflaient, ils applaudissaient. Manquait plus que Bob Marley, je suis en guitare derrière, c'est bon, voilà. Hein? C'était leur tawaf. Nul, et ils sifflaient, et ils applaudissaient, et voilà. C'était leur tawaf. Ça ne leur faisait rien d'être nus. Ça ne leur faisait rien. Enfin, l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il avait 30 ans, 32 ans. Hein? Il a dit à Abbas, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lève ton izar, ta tunique, vous dites izar, la tunique. Qui porte les yéménites là? La tunique, mets-la sur ton épaule, comme ça quand tu portes les pierres, ça te fait pas mal. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam, le hadith il est sahih, sahih au Cheikh Nasruddin, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est découvert pour poser la tunique, le izar sur son épaule pour poser la pierre, il est tombé évanoui. Il a entendu une voix lui dire « Astor awratak ». Cache, regarde, il n'est pas encore prophète. Hein? Cache, t'es parti. Depuis ce jour-là, le prophète Sassim dit, on n'a jamais vu les parties prophète. Ou plutôt, le prophète Sassim n'a jamais découvert ses parties. Regardez, Allah Ta'ala, déjà comment il préparait le prophète Sassim. Pendant qu'il construisait la Kaaba, les frères, je vous résume, ils l'ont monté comme elle est en ce moment. La porte, ils l'ont mis un mètre vingt. Et ils ont supprimé la porte nord. Hein? Et ils ont rempli ici la Kaaba. Hein? Et ils ont mis le tissu d'Ibej. Mais avant l'époque de Quraysh, ils ont mis un tissu du Yémen, du Chir. Comme chez nous aujourd'hui, Lacoste. Vous connaissez Lacoste? Hadja. Vous ne connaissez pas Lacoste? Adidas. Ah, Yassine. Les frères ils me regardent, on dirait que j'ai dit des marques au hasard. Voilà. Il y a un faux Adidas. Hein? Nike, c'est. El Mohim, Satrul Kaaba, ils ont mis le parfum. Voilà, qu'il après avoir fini la Kaaba, ils se sont sortis les épées. Pourquoi? Ils allaient s'entretuer entre eux, jusqu'au point, comme ils disent dans les livres. Ils ont pris une bassine, ils l'ont rempli de sang et ils ont mis des. Comme ils mettent Rambo là ici. Là. Comment vous appelez ça là? Je ne sais pas comment vous appelez. Là. Non, pas camouflage. Quand tu fais les signes, ça veut dire on va rentrer en guerre.
Les Indiens.
Les Indiens. Hein? On va se finir, rien vous, rien nous. Faut qu'on s'entretue. Mais attends, qu'est-ce que vous avez? Vous avez fait la Kaaba, vous avez mis votre argent, vous avez mis ci, vous avez mis ça, qu'est-ce qui vous arrive? Le problème, ils se sont disputés pour la pierre noire. La tribu a décidé qu'on la pose. Parce que la pierre noire, il fallait la poser dans le coin. Cette pierre noire, vous savez que le prophète, alayhi sallam, il a dit, cette pierre, elle est descendue du paradis. Ça, c'est hadith sahih. Et le prophète, sallam, il a dit, aujourd'hui, elle est noire. Pourquoi, il y a un cher prophète, pourquoi elle est noire? Le prophète, il a dit, elle est devenue noire à cause des péchés des êtres humains. Nous, là, on fait des péchés, on va la toucher, elle a été touchée. Autrement, quand elle est descendue du paradis d'origine, elle était blanche. C'est pour ça que, regarde, même les péchés influencent les pierres. Les péchés influencent les arbres. Les péchés influencent les animaux. Les péchés influencent les natures. C'est pour ça que toi, quand tu fais du bien, toi qui es ici, la Saint-Barnabé, tu fais du bien. Comment un requin en plein océan Pacifique, il te fait dua? Comment? Des milliards et des milliards de poissons à 10 km sous l'eau, ils te font dua. Pourquoi? Ça vous touche à quoi? Comment je fais du bien du mal? Ça vous regarde? Jusqu'à que le prophète a dit la fourmi dans sa grotte, elle te fait dua. Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ajib. Mais pourquoi? Parce que ces animaux-là, la nature là que tu dis toi, ces animaux-là, ils vivent tranquilles. Tant que toi tu fais le bien, tu propages le bien, eux ils vivent tranquilles. À cause de tes péchés-là, ni toi tu vas mener une vie tranquille, ni tu vas nous laisser tranquilles. Regardez quand il vient un adab d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le tsunami, etc. Le tsunami, il emporte tout. Combien de fourmis elles vont être noyées? Combien de baleines elles ont été rejetées dans le bord de la plage? Combien d'animaux sont morts? Combien d'éléphants? Combien de vaches? Combien de cochons? Combien de singes? Combien de chiens? Combien d'êtres humains? Tout ça à cause de nos péchés. C'est la pierre noire que vous voyez là. Elle était blanche. C'est nous qu'on l'a noircie. Pour vous faire montrer les péchés, regardez l'influence des péchés. Et mes frères, ça c'est si une pierre, elle est devenue noire. Alors nos cœurs, ils sont comment? Nos cœurs, alors, ils sont comment? C'est si une pierre, là, elle est devenue noire. Nos cœurs à nous sont comment, non? Lisez, quand je vous ai dit, on fera un jour au corps. Allah Ta'ala, il a décrit des cœurs dans le Coran, Ajib. Il a décrit, ils sont couverts. Il a décrit, ils sont renversés. Il a dit, ils sont noirs. Ils comprennent rien. Des cœurs, en parlant des cœurs, ils comprennent rien. Ils sont durs. Ajib. Faire Kofar, Quraysh, se sont disputés pour la pierre noire, là. La pierre noire, il fallait la mettre dans le coin. Parce que ce coin-là, c'est de là que tu démarres. Tes sept tours. Tu démarres de là, de la pierre noire, tu l'embrasses, si c'est possible. Tu embrasses la pierre noire et tu t'en vas. Jusque tu reviens à la pierre noire, tu as fait un tour. Voilà qui est le problème, qui c'est qui l'a mis? Chez eux, c'était précieux, ça. On a bâti la Kaaba, oui, mais celui qui va mettre la pierre noire, vous savez que les Arabes d'avant, ils aimaient beaucoup se vanter. C'est nous qu'on l'a mis. Qui c'est qui a mis la pierre noire? Ah, c'est la tribu de Khaled. Hein? C'est eux qui l'ont mis. Ou Belek? Belek, hein? Belek, tu es descendant d'eux. T'imagines, tu es descendant d'Abu Jahl? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont sortis les épées. Dispute. Il est venu un homme, il s'appelle Shaiba. Shaiba Hadha, il leur a dit, écoutez, regardez ce qu'on va faire. Arrêtez de se disputer, on ne va pas s'entretuer. On a fait un pacte pour faire la paix. On a fait quelque chose de bien. On ne va pas le pourrir. La première personne qui rentre, ils étaient dans leur club. La première personne qui rentre, on le met juge. C'est lui qui nous dit quelle tribu elle met la pierre noire. Chauffe le prophète, alayhi salatu salam, comme il est sage. Chauffe le prophète, alayhi salam, comme il était. Il avait une vision, le prophète, il essayait de faire plaisir à tout le monde. Le prophète, il ne venait pas te dire, toi, ça y est, toi, et toi. Non, le prophète, il venait te dire, toi, tu as tort, mais toi, quand même, il ne fallait pas que tu le disputes de cette manière. Tu vois? Le prophète, il essayait de vous faire plaisir à tous. Le prophète, alayhi salam, il rentre. Shaiba dit, ah, voilà, il y a Mohamed al-Amin. Mohamed, le confiant. Ah, il y a Mohamed al-Amin. Vous acceptez qu'il vient juge? On dit, oui. Et on va trouver mieux que lui. Oui, Mohamed, il n'y a pas de problème. Mohamed, il s'approche. Qu'est-ce que vous avez? On dit, voilà, on s'est disputé pour la pierre noire. Qui c'est qui l'a mis dans le coin? Le prophète, ça s'est dit, se passer. Étalez un drap. Mettez la pierre au milieu. Cette tribu, elle prend du morceau de drap. Cette tribu-là, elle prend de l'autre morceau du drap. Cette tribu, elle prend du morceau de drap. Cette tribu, elle morceau de drap. Vous levez le drap tous ensemble. Hein, jusqu'à vous allez l'endroit où vous allez mettre la pierre noire. Hein, et après, c'est moi qui la mets. Ils l'ont prise, tous, avec le drap. Ils ont pris la pierre noire. Hein, jusqu'à arriver à l'endroit où elle s'est posée, où elle est posée en ce moment. Hein, le prophète, avec ses mains, s'est mis la prise avec ses mains. Il a embrassé. Il a mis dans le coin. Il a mis la pierre noire dans son endroit. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait voulu venir, il aurait défendu sa famille. C'est les gens de Quraysh. C'est vous mettez la pierre. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essayait de faire plaisir à tout le monde. Il aimait le bonheur, il voulait le bonheur, il aimait la bonté, il était rahim avec tout le monde. Et c'est ce qui nous manque à nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La yu'minu ahadukum. Tu sais, quand tu écoutes ce hadith, l'un de vous n'est pas croyant. La majorité des savants, ils ont dit, ça veut dire qu'il n'a pas la foi complète. Il n'aura pas la foi complète. Mais il y a quelques savants, comme Ibn Hazm, et les savants, ils ont dit qu'il n'a pas de foi, ça veut dire que c'est mécréant. Attention, hein. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Le prophète Sassam, il dit, celui qui laisse tomber la prière de l'Asr, ça dure 3h30, là. Celui qui laisse tomber l'Asr, le prophète, il dit dans le hadith sahih, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Il a annulé ses œuvres. Le hadith, il est là. Celui qui laisse tomber la prière de l'Asr, il a annulé ses œuvres. يعني بالعربية من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذه كيكا إذا علماء يزون جي حبط عمله ابن قيم الجوزي تو رابورت ça veut dire qu'il a annulé toutes les œuvres qu'il a fait depuis la puberté. Tout ce que tu as fait de bien depuis que tu as 15 ans là, jusqu'à maintenant tu as 45 ans, 50 ans, c'est tout annulé parce que tu as laissé tomber la prière d'Asr sans motif valable. Et d'autres ulama, ils ont dit non. Minimum, comme Ibn Hajar dans le Fath al-Bari, il a dit minimum ce qu'on peut dire, il a annulé ses œuvres de ce jour-là. Et si tu as annulé les œuvres de ce jour-là et que tu meurs ce jour-là, c'est grave, frère. Il y a des hadiths, les ulama, ils essayent un peu, mais c'est pas dit que c'est eux qui aient raison. Fait comme là, le hadith, la yu'minu ahadukum, nous on va avec la majorité. Les ulama, ils ont dit, il n'aura pas la foi complète, un de vous. Il n'aura pas la foi complète jusqu'à qu'il l'aime pour son proche comme il l'aime pour soi-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Akhi, ça veut dire musulman. Ou sœur musulmane. Là, on sort les non-musulmans. Jusqu'à que tu aimes le bien pour le musulman ou la musulmane comme tu l'aimes pour toi-même. Et on est où, nous? Nous, on a un ballon comme ça dans le cœur d'égoïsme. Qui c'est de nous aujourd'hui d'aimer le bien pour son proche comme lui? Regardez ce que dit le prophète sallam. Aime le bien pour ton proche comme tu l'aimes pour toi. Je vais vous donner une histoire, juste pour vous donner l'exemple. Ghazwat Yarmouk, quand ils ont fait la guerre contre Héraclius, l'une des dernières guerres, les musulmans avec Héraclius. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trois compagnons, le leader c'était Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Dans cette guerre, il a cassé 100 épées, Khalid. Combien? 100 épées, il a cassé, Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, c'était lui l'émir. Al-Muhim, à la fin de la guerre, quand la guerre elle est finie, les morts ils sont étalés par terre. Parmi les morts, il y en a les blessés. Et là, il faut aller essayer de récupérer les blessés. On récupère les blessés d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il laisse tomber les morts. Les morts, après, on les récupère, on les enterre, etc. etc., etc. Mais d'abord, il faut s'occuper des blessés, il faut leur faire, il faut stopper l'hémorragie, il faut pansement, il faut regarder ses... Khalid ibn al-Walid, pendant qu'il circule dans la... Dans, comment vous dites? Dans le champ de bataille. Les morts, là, qui sont morts, pendant qu'il circule, il entend une voix. Il y a un Amir, un compagnon qui est en train d'agoniser. C'est qui ce compagnon? C'est celui qui prenait le Coran et l'embrassait. Ça ne veut pas dire que c'est sunnah d'embrasser le Coran. Hein. Mais c'est juste ce compagnon-là, tellement il aimait le Coran, regardez au point qu'est-ce qu'il faisait. Il embrassait le Coran, il l'embrassait, il dit « Kalam Rabbi, Kalam Rabbi », il le mettait dans son cœur comme ça, il l'embrassait. Il aimait trop le Coran. C'est qui cette personne? C'est le fils du plus grand ennemi du prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam. C'est le fils de Abu Jahl, qu'on appelle Ikrima. Ikrima, hada. Il était en train d'agoniser. Hein? Il allait mourir, blessé. Khalid ibn al-Walid, il juge à peu près quand il a l'habitude. C'est un mec que toute sa vie il a donné dans les guerres. Il sait quand quelqu'un est blessé, il sait quand est-ce qu'il va mourir. Il le voit. Il sait que c'est grave. Fait Ikrima, il lui demande de l'eau. Et vous savez, comme ils ont dit le ulama, inna lil maut sakarat. La mort, elle a de la souffrance. Jusqu'au point qu'il y a des savants, ba'd al-salaf, ils ont décrit qu'au moment où elle va sortir l'âme, même si la mer devant toi, elle est posée, tu as peur que je vais boire, ça ne va pas me suffire. Une souffrance agile. C'est pour ça que le prophète, il trempait de l'eau dans sa froide, il se l'est posé sur le front, sur le visage, il dit « Allahumma hawwin aliya sakarat al-mawt. » Et Allah, facilite-moi la souffrance de la mort. Il y a la souffrance de la mort. L'âme, elle ne sort pas comme ça. Malgré ça, Allah Ta'ala, il a fait une faveur aux croyants. Allah Ta'ala, il ordonne à l'ange de la mort, quand tu vas prendre l'âme de mon serviteur, le croyant, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Elle sort l'âme du corps comme une goutte d'eau. Tu souffres, mais c'est très rapide.
C'est comme une goutte d'eau. Tac, tac. Ça y est.
Lakin le kafir, Allah Ta'ala l'ordonne à l'ange de la mort, fais-le souffrir. On parle pas de la tombe, hein. On parle quand il va sortir l'âme. Fais-le souffrir. Le prophète dit, l'âme du mécréant, l'âme de l'hypocrite, quand elle va pour sortir, c'est quand vous essayez de sortir des bois, des épines accrochées dans la laine. الشوك ملوث بالصوف روح انت نحي فك هذا الشوك هذا فكه من الصوف صار ديشير الصوف سي برسك امبوسيبل لا سوفرانس لا كيس كي ديزي لو بروفيت عليه الصلاه والسلام اون بارلي دو كوا خالد بن الوليد عكرمه ابن ابي جهل يدوماند خالد بن الوليد دو لو خالد بن الوليد Il va lui chercher de l'eau. Il s'écarte comme ça. Il s'écarte pour aller lui chercher de l'eau. Quand il revient, il le trouve. Il va, il s'accroupit. Jafa ala rukbati, il s'est accroupi pour lui donner de l'eau. Il entend une deuxième voix, la plaie qui était proche de Ikrima. Amr ibn Hisham, qui était en train de crier, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ikrima. Il dit à Khalid ibn Walid al-Amir, il lui dit, vas-y, donne-lui un peu. Vas-y. Donne-lui à lui le premier après moi. Khalid ibn Walid, il se lève. Il va vers la direction Amr ibn Hisham pour lui donner de l'eau. Juste à côté de lui, une troisième personne qui m'a échappé son nom, il lui dit de l'eau. De l'eau. Khalid ibn Walid, hein? Il était chez Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham lui dit vas-y, donne-lui à lui. Donne-lui le prénom. Même au dernier souffle de la mort, il pensait le bien pour les autres avant eux. Quand Khalid ibn Walid s'est levé pour aller direction vers le troisième, avant d'arriver chez lui, Khalid ibn Walid, met. Il est mort le troisième. Il m'a échappé son nom. Il est mort. Quand Khalid ibn Walid revient vers Amr ibn Hisham pour lui donner de l'eau, Amr ibn Hisham, il est mort. Quand il revient Khalid ibn Walid vers Ikrima ibn Abi Jahl pour lui donner de l'eau, Ikrima ibn Abi Jahl, il est mort. Allah Ta'ala les a cités dans le Coran, il dit, Allah sauve les compagnons, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الأمر يخصهم. Ils en ont besoin d'un degré incroyable. لكن ils se privent et le donnent aux autres. Vous savez, un jour le prophète il a reçu un invité. Le prophète il a reçu un invité. الرسول صلى الله عليه من يطعم ضيفي. Mais avant de parler, le prophète il a envoyé chez ses épouses. 9 femmes, Mehdi. 9 épouses. 9 maisons, c'est-à-dire 9 chambres. Le prophète il leur envoie une par une, est-ce que vous avez du manger dans la maison? Les 9, elles répondent, Wallahi ya Habib Allah, Wallahi ya Muhammad, on n'a rien à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté ce bas monde, il ne s'est jamais rassasié 2 fois par jour. Ma shabi'a al-rasoul marratin fil yom abadan. S'il mangeait maintenant à midi, ça tant que le soir il ne va pas manger. Regardez le gaspillage qu'on a, nous, qu'aujourd'hui, on mange et on jette. Regardez. Qui est-ce qui fait nourrir après avoir envoyé à ses épouses? Est-ce que vous avez quelque chose? Les 9 épouses, elles disent, Wallah, il y a Rasoulallah, on n'a rien. De l'eau. Enfin, Rasoul, il parle aux compagnons qui étaient avec lui à la mosquée. Qui de vous est prêt à prendre mon invité? Un compagnon, il dit, Ana, ya Rasoulallah. Mais l'ajib, ce compagnon, Wallah. L'ajib, ce compagnon, comment tu dis moi alors que tu n'as rien à la maison? Ce compagnon, il avait juste un petit peu de nourriture pour ses enfants. Même lui et sa femme, ils n'allaient pas manger. Quand le compagnon, il rentre à la maison, et il dit au ministre de l'Intérieur, Zulikha, il lui dit, voilà, aujourd'hui, je vais recevoir comme vos épouses, alhamdoulilah, le fond de vos épouses. Quand même. Ah, il y a, à la maison, il y a, aujourd'hui, c'est des boîtes de conserve. On soit un invité, elle, tu crois qu'elle va te faire le manger couscous à minuit? Ah, tu ouvres une boîte de conserve, casse grain ou mange. On a magie, elle est dans la soupe, elle est ouvrir le magie. Micro-ondes, elle a capi sur l'index, il est chaud, magie. C'est de la magie. Fahad, le compagnon, il va voir son épouse, il lui dit, écoute, on va recevoir l'invité du prophète. C'est ça, c'est ça. Il a dit, mais on n'a rien, on a juste la nourriture pour les enfants, comment on fait? Il lui dit, écoute. Quand le magie est prêt, tu éteins la lumière. Tu essayes de faire patienter les enfants, tu essayes de les faire dormir, et tu me poses le manger, et quand le manger est prêt, l'invité du prophète il est assis avec moi, tu étais la lumière, la lanterne, tu étais la lumière, je fais croire que je mange avec lui, mais en vérité je ne mange pas, pour que le manger lui suffise. C'est le plan. Même ceux qui cambriolent les banques, ils ne font pas un plan comme ça. Et ça s'est passé comme ça. La mère a fait dormir ses enfants en sakine. Enfin, elle ne fait pas ça. Tout ça pour rendre service au prophète à l'essence. Elle fait dormir les enfants, elle prépare à manger, elle éteint la lumière, l'invité, il mange. Les chemins, sakine, et ils ont passé une nuit blanche. C'est-à-dire une nuit blanche du fait qu'ils n'ont pas mangé. Hein. Dormir, ils ont dû dormir. Hein. Ils n'ont pas mangé. Le lendemain, l'invité, il part. Le prophète Sassim, il a vu ce compagnon, il lui a souri. Vahek. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait hier? Le prophète, il dit au compagnon, qu'est-ce que tu as fait hier? Mada fa'alta al-balah? Il dit, rien, j'ai pris soin de ton invité. Il lui a dit, qad ta'ajjaba Allah. Allah, il s'est étonné, min sami'ikuma. Allah, ça l'a étonné, ça l'a tellement plu. C'est-à-dire le comportement comme tu t'es comporté hier avec son invité. Ou avec mon invité. Allah, ça l'a satisfait. Allah. On parle pas du prophète. Hein. Allah, ça l'a satisfait. Et le prophète, ça l'a touché. Ils avaient faim, hein. Ils avaient faim. Ou elle est qu'ils ne se sont privés, ils ont donné un autre. Et les compagnons, c'est comme ça. Elle rentre aujourd'hui, elle rentrait un jour une femme avec ses deux petites filles. Pauvre. Yatim, les deux filles, orphelines. Vous savez qu'est-ce que c'est un orphelin? Le prophète, il a dit, quoi, quand tu te dis un orphelin, la porte, elle est ouverte. La mère, elle rentre voir Aïcha, elle dit à Aïcha, est-ce que tu peux me donner un peu de nourriture? Aïcha lui dit, Wallah, j'ai pas grand-chose à la maison. J'ai trois dates. Aïcha a trois dates à la maison. Aïcha, Faqiha, Alima, la fille du prophète. Un coup de doua, il y a tout qui tombe. Pourquoi vous croyez que les femmes du corps... Par exemple, juste Aïcha, vous croyez qu'Allah n'est pas capable de nous donner comme Maryam? Elle fait de la kata, lui dit maintenant, Ya Rabbi, donne-moi le risque, donne-moi la subsistance. Allah ne donne pas. Aïcha qui connaît le Coran par cœur, Aïcha qui connaît 2000 hadiths. Aïcha la plus grande savante qui connaît des poèmes, Allah va la laisser tomber. Voilà que c'est des gens, le Rasoul les a dressés à vivre dans la pauvreté. Être vivre miséreux. J'ai pas de patience. Nous, regardez, tellement on vit dans le luxe, tellement on vit dans le gaspillage, on est devenu fragile, comme on disait tout à l'heure sur les femmes. Même nous, les hommes. Aujourd'hui, regarde, le frère, il va voyager, il va en Arabie Saoudite, il va le Hajj. Hajj. Il te prépare un sac, on dirait que ça y est, il va vivre en Arabie Saoudite. Et dans le sac, Hajib, il lui faut son shampoing. Il lui faut son après-shampoing. Il lui faut son après-shampoing. Il lui faut son dentifrice. Et il lui faut sa pommade exprès pour les aisselles. Et sa pommade exprès les joues. Et sa pommade exprès les oreilles. Et sa pommade exprès la poitrine. Et son parfum de samedi. Et son parfum de dimanche. Et son parfum de lundi. Et Azaro de vendredi. Et lundi. Fragile. Il a perdu son dentifrice en Arabie Saoudite, ça y est. C'est plus le frère que tu as voyagé avec lui, hein. C'est plus. Hein. Il est devenu. Goldorak. Il s'énerve, il insulte pour un dentifrice. Regardez la vie de luxe où ça nous mène. Regardez les frères aujourd'hui qui. Je regarde pas. Regardez les frères qui ont le gel sur les cheveux. Mets ta main sur ses cheveux. Bahana. Il dit Gemaha ou ha? Hein? Tout fumé les cheveux. Elles sont fragiles, les femmes. On est fragiles. Je ne vais pas rentrer dans les. Qu'est-ce qu'on déjeune le matin? Il lui faut son bol, il lui faut son lait, il lui faut ses céréales. Céréales avec qui dans la boîte, il faut qu'il y ait le tigre qui fait ça. Ça, ils mangent pas. Hein? Ils vont au champ, il leur faut des gâteaux spéciaux. Hein? Il lui faut ces gâteaux avec, il lui faut des gâteaux avec dans la marque, dans la boîte, il faut que ça soit marqué Balzen. Hein? On l'a lu. Hein?
C'est pas moi.
Pas au vrac. En vrac, tu prends des gâteaux, des paquets de gâteaux, c'est la forme des au champ, un petit peu, la tête d'un oiseau, là. C'est des gâteaux, ça marque.
Je connais pas ton frère.
Je connais pas toi. Tu n'as pas le goût du vivre.
Je sais pas. C'est quoi ce goût de vivre? Frère, quand tu prends ces balzènes, elles te fondent dans la bouche. Elles te fondent dans la bouche.
Pourquoi les autres ne vont pas fondre? Moi, elles font par force, elles font. Ça fond.
Le problème, on vit trop dans le luxe.
Aïcha lui dit, wallah, j'ai que trois dates. Que trois. Tiens, moi, la mère, elle prend une date, Ahmed. Hier, on parlait de Rahma. Regarde. La mère, elle prend une date. Elle en avait deux autres, des dates. Elle donne à sa fille l'autre, tiens, à droite, prends cette date. Et elle donne à sa fille l'autre de gauche, tiens, prends cette date. Pendant que la mère, elle continue à parler à Aïcha, je te remercie, barakallahu fik, etc. Les filles, c'est qu'elles, tellement elles avaient faim, elles se sont précipitées de manger leur date. Celle de droite, elle a vite avalé sa date. Celle de gauche, elle a vite avalé sa date. La mère, la pauvre, au moment où elle arrête de parler avec Aïcha, elle prend sa date, elle la coupe en deux, elle va pour la manger, ses deux filles se remettent à pleurer, elle a tiré par la robe. Maman, maman, donne-nous ça, maman, maman, donne-nous. La mère, vous savez la mère. L'instinct maternel, vous dites en français, je crois. Vous savez, elle partage mesquine à la mère la date en deux, et elle donne la moitié à sa fille de droite, et l'autre moitié à sa fille de gauche. Et elle, tant que mes filles se nourrissent, moi, c'est pas grave. Aïcha le détecte. Aïcha le regarde. Aïcha, ça l'a touché. On s'en fout, hein. Mais Aïcha, ça la touche. Ça, c'est le cœur vivant, ça. Elle sort la mère, elle prend ses filles, elle part. Elle n'a rien trouvé chez le prophète. Rien. Prophète chez lui, trois dates. Un prophète chez lui, trois dates. C'est inimaginable. Quand elle sort cette mère, il rentre le prophète, alayhi salam. Il trouve Aïcha en train de pleurer. Visage changé. Aïcha, qu'est-ce que tu as? Elle dit, wallahi, rasoulallah, ajib. Et elle lui a raconté. Elle est rentrée une mère avec ses deux enfants. Je lui ai donné trois dates, elle l'a partagé à ses filles. Et après sa date à Al-Meskina, elle a donné à ses dates. Le prophète, ça, c'est qu'il a dit, cet acte-là, cette œuvre-là, cet acte, cette action qu'elle a fait cette femme, c'est ça qui va la faire entrer au paradis. C'est pour ça qu'on vous dit plusieurs fois, le prophète vous a dit, ne sous-estime aucun acte. Tu ne sais pas c'est de quel acte qui va te faire entrer au paradis. Toi, tu crois que c'est le hajj qui va te faire entrer au paradis? Là. Tu crois que c'est la prière? Là. Tu crois que c'est le jeûne? Là. Tu crois que c'est, je ne sais pas moi, tel jour tu as donné à ta mère 1000 euros? Non. C'est un jour, cette date que tu as donnée, que tu as oubliée. C'est un jour, tu as donné un euro à un orphelin dans la rue, là, parce qu'il était à porte d'air, tu as donné un euro, tu as oublié. C'est cet euro-là qui va te faire rentrer au paradis, parce qu'il a été avec sincérité. C'est un jour, tu as fait doua dans le soujoud, tu étais tellement bien, tu as dit, Ya Rabbi, pardonne-moi, Ya Rabbi, je me manque beaucoup envers toi, Ya Rabbi, pardonne. C'est ce doua-là que tu as fait ce jour-là, qu'Allah Ta'ala t'a fait rentrer au paradis. C'est ce jour-là, un jour, tu étais en voiture, tu as acheté un peu de pomme, tu as dit, Wallah, je vais amener ça à mon voisin, ou à ma mère, ou à peu importe. C'est pour ça que le prophète il te dit, ne sous-estime aucun acte. Cette femme-là, ce qu'elle a fait là, le partage de sa date là, cette partage, c'est ça qui va la faire entrer au paradis. Elle est hadaya ikhwa. Regardez les compagnons, comment le prophète les adressait, ils donnaient aux autres avant eux-mêmes. Ils aimaient le bien aux autres avant eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il aimait le bien pour tout le monde. C'est le seul. Ya akhi. Ça, et on finit. Je me suis beaucoup retardé, je sais. Il y en a un qui sont en train de m'envoyer des missiles. Je vous dis juste ça. Oui, c'est toi, tu es le premier. Quand ton missile, il fait mal, toi, tu es sur la chaise. C'est la seule personne, mes frères. La seule. Est-ce qu'on lui fait de A dans le soujoud? Il n'en a pas besoin. Hein? On lui fait de A au prophète? On lui fait pas. Il n'en a pas besoin. C'est la seule personne, le jour du jugement, où tous... On va dire, nafsi, nafsi. Comme il dit dans le hadith, fait le Bukhari. Moi-même, moi-même. Et après, donne-moi une hasanat. Ah, oh, frère, je ne peux pas te donner. Frère. Ta mère, tu vas fuir de ta mère. On ne parle pas de moi. Tu vas fuir de ta mère, Allah Ta'ala dit. Tu vas fuir de ton père. Tu vas fuir de chaque personne, Allah Ta'ala dit dans le Coran. Fuir. Il n'a pas dit tu vas éviter. Fuir. Il ne faut pas que l'œil, il a l'audace de dire, viens, donne-moi une hasanat. Cette hasanat, le jour du jumal, vaut des milliards, tu ne me donneras pas. Tous, on a peur. L'enfer, elle est devant nous, dirigée, devant nous. Tous, même Adam, notre père. On a tellement peur ce jour-là. On va aller voir Adam. Il y a Adam, tu es notre père. Fais quelque chose pour nous. Il dit, merci, merci. Adam, qui c'est qui vous a fait sortir du paradis que moi? J'ai commis un péché. Allah, il m'a dit, mange pas de l'arbre, je l'ai mangé. Allez voir autre que moi. Allez, la seule personne qui, Yom al-Qiyama, il va dire, ma communauté, ma communauté. Il va s'oublier lui-même. ne va pas dire moi à moi. Il va s'oublier. Il va dire ma communauté, c'est le prophète Mohammed. Et au moment du Qiyama, Allah Ta'ala, le prophète va dire Ummati, Ummati, Ya Allah. Fais-moi plaisir vis-à-vis de ma communauté. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire plaisir, qui va faire que les occupants du paradis, plus que la moitié des occupants du paradis, vont faire partie de cette communauté-là. Plus que la moitié des occupants du paradis vont faire partie de cette communauté-là. Donc, comment ça se médite dans le hadith sahih ? Il y aura 120 rangs qui rentrent au paradis. Miaou Echelin, sauf dans le Jannah. Combien il fait le rang ? Allahu a'lam. Je ne sais pas. Il y en a 120 des rangs. A vous de chercher pourquoi 120. Le chiffre 120. Il y aura 120 rangs qui rentrent au paradis. De cette communauté-là, 80. 40, un petit peu de Moïse, un petit peu d'Ibrahim, un petit peu de Noah, un petit peu. 80 de cette communauté-là. Grâce au prophète Mohammed. Que nous, aujourd'hui, il nous a demandé juste, faites-moi plaisir, mes enfants. Il a dit juste ça avant de mourir. Il n'a pas dit, occupez-vous de ma famille. Il n'a pas dit, occupez-vous. Il nous a demandé juste un petit truc. Il a dit, mes enfants, faites-moi plaisir. S'il vous plaît. Ouais, cher prophète, vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Je vous demande juste une chose. Je vous ai laissé une chose, là. Quand je meurs, prends-la bien en main. Je t'ai laissé quelque chose qui s'appelle la sunna. Fais comme j'ai fait, c'est tout. Je veux rien de toi. Prends-la bien en main, cette sunna. Tu es mon fils, je suis comme ton père. Je te demande juste ça. Qu'est-ce qu'on lui répond? Ou qu'est-ce qu'on a répondu? Point d'interrogation, chacun de nous se connaît. Prochain épisode, c'est la révélation. Attention, ne le ratez pas.